Le grand entretien ce matin avec Marion Lourd, nous recevons un homme qui a eu plusieurs vies, romancier, réalisateur, essayiste, auteur à succès, on pense à La Chambre des officiers, Tsunami, il a écrit sur le directeur historique du FBI, Edgar Hoover, et ça n'est pas anecdotique, et il publie L'Orgie capitaliste, c'est un livre d'entretien mené par le journaliste Adrien Rivière, c'est publié chez Alary Éditions, un livre sur notre époque, un livre sur la catastrophe écologique qui a déjà commencé, sur la révolution numérique à laquelle il a déjà consacré deux essais. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous pourrez dialoguer avec les auditeurs d'Inter au 01 45 24 7000 pour vous poser des questions, pour intervenir, pour vous contredire, dialoguer, débattre avec vous ou sur l'application France Inter. On va partir d'un sujet que vous connaissez bien, sur lequel vous avez beaucoup écrit et travaillé. C'est la Russie, l'élection présidentielle en Russie. Marc Duguin, vous êtes interdit de séjour en Russie depuis 15 ans?
À peu près, je crois que en fait tout a commencé quand j'ai fait mon enquête sur la tragédie du Kursk, vous savez ce sous-marin qui a explosé en fait en mer de Barents, et c'est là que qu'a eu lieu mon premier contact avec Poutine d'une certaine façon, c'est-à-dire que je me suis retrouvé un matin à la morgue de Moscou et j'ai vu les cadavres des 23 jeunes qu'il a laissés mourir dans le bateau, alors qu'ils étaient par 100 mètres de profondeur. 100 mètres de profondeur, c'est le record du monde d'apnée, à peu près. Donc on pouvait aller les chercher. On pouvait les chercher, ces 23 marins. Et il n'a pas voulu, pour différentes raisons. Il voulait pas que les Occidentaux interviennent, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'il ne voulait pas que, si ses survivants s'exprimaient, il donne une version différente de celle que lui préparait. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai vu ces cadavres assez longtemps après le naufrage du Kursk, parce qu'il ne voulait pas non plus rendre les cadavres aux familles, parce qu'il avait peur que les cadavres parlent par eux-mêmes. Donc ça montre toute la personnalité. Et c'est là que j'ai pris la mesure de l'ampleur du personnage à l'époque.
Marc Duguin, parce que je le disais, vous aviez donc publié Une exécution ordinaire, et donc c'était un livre sur le naufrage de ce sous-marin, le Kursk K-141. Ça a eu lieu le 12 août 2000. Ce jour-là, Poutine est en vacances. Il refuse toute forme de secours, vous le disiez à cet instant. C'est un homme qui, capable de ça, et donc capable du pire. Et pour vous, c'est la manière d'entrer dans sa psychologie, puisque vous avez une analyse du pouvoir qui passe toujours par la psychologie humaine.
Il m'a beaucoup intéressé, comme m'avait beaucoup intéressé Staline. D'ailleurs, une exécution ordinaire qui a donné lieu aussi à un film après, bon là, qui était plus sur Staline. Mais c'était une façon d'essayer de comprendre, parce que pour un romancier, ce sont des personnages évidemment monstrueux, mais fascinants. Quels sont les ressorts psychologiques d'un Poutine qui... Je pense que sur Poutine, il y a eu une erreur d'analyse depuis le début. C'est-à-dire que fondamentalement, on a voulu le voir comme un homme politique, nationaliste. C'est fondamentalement un voyou. C'est fondamentalement un mafieux. C'est Totorina avec la bombe atomique. Et ça, on l'avait jamais vu. Moi, je me souviens d'un coordinateur du renseignement adjoint qui avait eu cette phrase très intelligente à l'époque, qui avait dit « Méfiez-vous, on est en train de se focaliser sur l'islamisme radical, et d'une certaine façon, on avait raison de le faire. Mais ce qu'on oublie, c'est l'entrée des mafias dans les systèmes politiques. Et avec Poutine, on a cette espèce de convergence à la fois mafieuse liée au service secret, ce qui, à la fin du KGB, le KGB, à la fin, était déjà une mafia. Hein. Et il a pris le pouvoir sur les oligarques, sur la mafia, sur l'armée, sur... Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Totorina, vous vous souvenez de Totorina qui avait fait exploser le juge Falcone, qui a simplement comme arme l'arme atomique.
Un mafieux italien qui avait fait assassiner donc ce juge qui était à la tête de l'opération, main propre, manipulité, et c'était un attentat absolument dramatique. D'un mot, parce que Vladimir Poutine est souvent présenté comme un monstre, chez vous, la manière dont vous le décrivez, c'est plutôt un homme ordinaire, et c'est ce côté ordinaire qui le rend particulièrement dangereux, Marc Duguin.
Il est ordinairement mauvais.
ordinairement mauvais, ça veut dire quoi?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, du mal qui est très commun, finalement, mais poussé à son paroxysme. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de psychotique chez lui. C'est une sorte de paranoïa qui s'est installée. Et vous savez, le problème, c'est que quand vous êtes un dictateur, que vous êtes devenu un dictateur, plus personne ne vous contredit. Et quand il n'y a plus de contradiction, on rentre dans la psychose.
Alors justement.
Et donc là, on a quelqu'un de totalement psychotique en face de nous.
Alors justement, vous le décrivez comme un voyou, vous parlez d'une sorte de banalité du mal, en quelque sorte, en ce qui concerne Poutine. Est-ce que, enfin, la France, par exemple, prend enfin la mesure de ça? Je vous dis ça parce que ce matin, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui répète dans Le Parisien qu'il est favorable à l'envoi de troupes au sol en Russie. Peut-être qu'à un moment, il faudra des opérations sur le terrain, quelle qu'elle soit. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire, dit-il. Là, il prend enfin la mesure de qui est Poutine, parce qu'à un moment, il ne fallait pas l'humilier, rappelez-vous.
Bah, c'est toujours la même chose. Moi, si vous voulez, j'ai commencé par des articles. Je pense que c'est ça qui m'a valu qu'un ministre a voulu m'emmener en voyage officiel en Russie, qu'on lui a dit que c'était hors de question.
Vous écriviez notamment pour les Échos.
J'ai écrit pour les Échos pendant 9 ans, dans le 1 d'Éric Fotorino. J'ai fait beaucoup de papiers sur Poutine dès le début, en essayant d'avertir, en parlant au milieu diplomatique, en tout cas à ceux que je connais dans le milieu diplomatique, en leur disant attention, là, on a l'émergence d'une personnalité extrêmement toxique, et je crois que vous en prenez pas la mesure. Et tout le monde, c'est toujours pareil dans notre système, après on va peut-être y revenir, mais tant qu'on fait du business, il y a de l'espoir. C'est un peu ça, si vous voulez. Donc, l'importance pétrolière, gazéifère de la Russie a fait que on s'est dit, et puis il y a eu cette période aussi où quand il a fait la seconde guerre en Tchétchénie, on s'est dit bon, c'est un vrai combattant contre les forces du mal. Il était dans l'esprit, si vous voulez, de la lutte contre l'islamisme. Mais je pense qu'on l'a totalement sous-estimé. Et
oui.
Et aujourd'hui, évidemment, la réaction, elle est forte, parce qu'on voit bien que ça peut se jouer à très peu, la catastrophe. À très très peu. C'est quelqu'un qui... En plus, moi, je rajouterais quelque chose qui est peut-être pas très optimiste pour nos auditeurs, mais c'est quelqu'un qui arrive à un âge... Il a 50 plus que moi, donc il est déjà à un âge assez, pas canonique, mais déjà assez avancé. Et à cet âge-là, partir avec le monde... c'est pas forcément choquant.
Mais donc
moi, je suis très inquiet sur sa capacité à déclencher quelque chose d'assez terrifiant.
Mais donc la France a raison d'afficher maintenant cette position dure, cette position que certains trouvent extrême, au risque de l'escalade.
Alors, la France a la raison de prendre déjà conscience de qui il est, parce que très longtemps on a été dans le déni à tous les niveaux. Maintenant, on est une puissance nucléaire. Entre puissances nucléaires, je pense qu'il faut se calmer, parce que soit on y va, et à ce moment-là, c'est un affrontement direct. Mais je pense que le cadre aujourd'hui, c'est l'OTAN. C'est-à-dire un pays de l'OTAN est attaqué, oui, c'est la guerre. Tant qu'un pays de l'OTAN n'est pas attaqué, je pense qu'il faut se maintenir dans cette position d'aide totale à l'Ukraine, mais intervenir directement, ça aurait des conséquences désastreuses.
On va revenir sur la guerre, mais d'abord filons au standard Marc Duguin. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur Inter.
Merci. Alors, moi je pense que je me demande si tout ça c'est pas de la com en fin de compte pour faire passer au niveau du chômage, de la délinquance, les européennes arrivent, donc moi j'ai l'impression que en plus nous n'avons pas du tout les moyens, on a en gros 15 jours de munitions pour faire une guerre, donc faire la guerre à la Russie, alors pourquoi faire le méchant alors qu'on n'en a pas les moyens, quoi? Point d'interrogation.
Enfin, merci Christophe. Marc Duguin.
Ben là, vous touchez un sujet qui évidemment m'intéresse beaucoup, c'est la com. C'est-à-dire que là, on est depuis un moment dans un gouvernement, enfin en tout cas dans une forme d'action politique, où le faire semblant et la communication ont pris le pas sur l'action. C'est le cas dans l'écologie, et là, c'est évident que d'un seul coup, cet empressement à quelques mois des européennes à jouer les durs Je suis assez persuadé qu'il y a une grosse partie de com, oui, effectivement.
On va y venir d'ailleurs à la question écologique, à la question numérique qui sont au cœur de ce livre, L'orgie capitaliste. Mais encore un mot sur la guerre. Vous dites, allons demander aux Ukrainiens si l'homme est grand, justement. Vous avez travaillé sur la guerre et notamment la guerre de 14-18. C'était le sujet de votre livre, La chambre des officiers. C'est une guerre qui vous a hanté. Et vous dites qu'un jour, vous êtes allé dans un colloque international et vous qui avez étudié la question, vous êtes trouvé confronté à une question extrêmement simple. Pourquoi ? Vous avez étudié la guerre de toutes les manières possibles et imaginables, et la seule et pourtant fondamentale question que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est pourquoi ?
Je dirais que c'est pour moi une question fondatrice et traumatisante. Parce que j'ai eu cette expérience qui est très particulière, qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est d'avoir vécu pendant des années avec des gens qui étaient défigurés, mutilés, atrocement mutilés, de la guerre de 14-18. Alors qu'évidemment, j'avais pas l'âge d'être un gueule cassée, mais vivant avec mon grand-père, j'ai vu cette horreur et c'est vrai que je n'ai jamais trouvé la réponse, c'est-à-dire que la guerre de 14, c'est plus de 20 millions de morts, 39-45, je crois qu'on est à 48 millions, enfin ce sentiment profond qui moi m'angoisse et m'inquiète, c'est ce sentiment de suicide collectif qui est toujours là, c'est-à-dire et là on l'a une nouvelle fois, c'est-à-dire que on a beau dire oui l'Ukraine c'est pas nous, etc., mais ça recommence, c'est-à-dire que et il y a toujours ce même mépris des dirigeants de leur propre peuple. Ce qu'on oublie chez Poutine, c'est la haine profonde qu'il a pour son peuple.
Marc Duguin, vous publiez ce livre, donc L'orgie capitaliste, où il est question aussi de Poutine, mais c'est surtout une dénonciation en règle de cette société de consommation qui est devenue centrale, qui est droguée au numérique. Vous comparez ça vraiment à de la drogue, à de l'héroïne, et puis cette catastrophe climatique qu'on refuse en quelque sorte de voir. Alors on l'entend pas à votre ton ce matin, mais vraiment c'est un livre de colère. D'ailleurs le mot apparaît plusieurs fois dans votre entretien avec Adrien Rivière, le mot de colère. Est-ce que la colère c'est vraiment un bon moteur?
Non, c'est pas un bon moteur. Ça apparaît comme un livre de colère, mais c'est vrai que quand je suis beaucoup moins en colère quand j'écris moi-même, parce que j'arrive à me rassurer. Mais quand je parle, que je réponds à un journaliste en plus aussi intelligent qu'Adrien Rivière, c'est vrai que je me laisse aller. En plus, on était chez moi. Mais c'est vrai que il y a des sujets de colère. Et quand je vois, par exemple, la marche arrière qu'on fait sur l'écologie, moi j'ai un sentiment, si vous voulez, c'est que la question climatique, elle est réglée. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de combattre le réchauffement, c'est terminé.
On ne peut plus rien faire.
Comment on va s'adapter au réchauffement?
Donc les COP, ça ne sert à rien.
Et en fait, dans les grandes entreprises, c'est l'idée de quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à nous avec le réchauffement climatique. On en est là, c'est-à-dire la libération de certaines routes en matière de circulation de containers, quelles sont les zones qui vont être totalement découvertes où on va pouvoir faire des forages pétroliers et gaziers. Donc on est là-dedans. On est dans le réchauffement, on est dans la soi-disant dans la lutte contre le réchauffement climatique, et jamais les entreprises pétrolières n'ont fait de tels bénéfices.
Mais Marc Duguin, c'est frappant.
On est dans un délire.
On est dans un délire, on est aussi dans une forme d'apocalypse. Avant de retrouver les auditeurs d'Inter, j'aimerais vous interroger sur ce double péril. D'un côté, le réchauffement climatique et la catastrophe écologique qui ont commencé, et de l'autre, la catastrophe numérique, celle qui nous attend. Ils déposeront leur liberté à nos pieds, ils nous diront « Faites de nous vos esclaves, nous voici ». Vous avez repris cette phrase de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Vous ne croyez pas au progrès, vous ne croyez pas aux formes d'émancipation du tout.
Ah si, bien sûr que je crois au progrès. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on a une classe politique qui est là pour la défense du bien collectif, du bien commun. Lequel bien commun, on est d'accord, est constamment en lutte contre des intérêts particuliers qui sont justement les intérêts des grandes entreprises. Et ce qu'on attend du politique, c'est que face à des évolutions technologiques, c'est de nous y préparer, qu'on s'y prépare ensemble. C'est-à-dire qu'en fait...
Oui, mais le citoyen fait place au consommateur, c'est ce qui apparaît à chaque ligne de ce livre. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, par exemple, quand on va acheter un jean.
Mais c'est surtout que la... qu'on est de plus en plus considéré comme des consommateurs et de moins en moins comme des citoyens. C'est-à-dire qu'on est là pour faire marcher une croissance, pour faire marcher une machine économique, mais que le côté citoyen qui devrait être qui est le propre de notre intelligence, finalement. C'est là qu'on s'exprime vraiment en tant qu'être humain. C'est parce que le côté consommateur, c'est lié à des addictions. La consommation, c'est une addiction.
Oui et non, il y a quand même une consommation nécessaire.
Oui,
dans
bien
un
sûr,
sens, c'est compréhensible qu'on soit obsédé par la consommation quand on a une inflation à 5% l'an dernier, encore plus sur l'alimentaire. Trois quarts des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir des fins de mois correctes. Est-ce que le pouvoir d'achat, la consommation, ça n'est pas quand même aussi un sujet et un sujet politique?
Bien sûr que c'est un sujet politique, mais ce qui est dramatique, c'est la question de la répartition, en fait. Je suis désolé, quand on voit les résultats cumulés des entreprises du CAC 40 cette année, qui sont absolument mirifiques, et qu'on voit le nombre de gens, moi je le vois parce que, contrairement à beaucoup de gens, j'habite pas à Paris, je suis en province.
En Bretagne.
En Bretagne, et de plus en plus dans les Cévennes. Et je peux vous dire que dans les Cévennes, il y a beaucoup de gens pour qui les fins de mois, c'est vraiment un problème.
L'an dernier, trois quarts des Français disaient avoir une fin de mois difficile. C'est un sondage de LSA, le magazine spécialisé dans la consommation. Donc c'est vraiment trois quarts des gens qui disent, à la fin du mois, je n'ai plus de sous. Donc comment s'étonner que la consommation devienne centrale dans ce cadre?
Mais parce que, en fait, je dis toute la question, c'est que on produit des données, on produit des biens. Mais finalement, la répartition qui est faite derrière est extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire que c'est invraisemblable qu'avec la valeur qu'on crée. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous parlez à un dirigeant d'une grande entreprise, lui, il vous dit « je suis là pour créer de la valeur pour mes actionnaires ». Je le cite dans le livre d'ailleurs, je cite pas la personne parce que je suis charitable, mais
il pourrait être plusieurs à dire ça.
Il pourrait être plusieurs. Mais non, une entreprise, c'est pas que créer de la valeur pour les actionnaires, c'est créer de la valeur pour les salariés, c'est créer de la valeur pour que les gens vivent. Et cette logique, moi j'ai été dirigeant d'entreprise, et c'était il y a presque 30 ans, mais je me souviens pas que le capital était rémunéré comme il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital est rémunéré de façon totalement abusive.
Mais elle crée des emplois autant... et de la richesse aussi,
oui,
des entreprises.
Mais visiblement, c'est pas bien réparti, puisque c'est impensable qu'avec la valeur concrète, il y ait des gens qui soient encore autant en difficulté.
Il y a une forme de catastrophisme dans votre livre. Est-ce que vous êtes désespéré, Marc Duguin?
Pas complètement.
Pas complètement. Alors donnez-nous une raison d'espérer, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que vous vous présentez non pas comme un lanceur d'alerte, mais vous préférez l'expression de veilleur de nuit. Cette sortie du capitalisme, elle vous semble imaginable? Vous n'avez pas l'air de croire dans les grandes utopies, dans l'alternative qui pourrait être, je sais pas moi, formulée par le marxisme ou d'autres. Vous dites qu'on est un peu comme dans la situation de Don't Look Up, le film qui montre la catastrophe arrivée et on refuse de la voir.
Ben, je crois que oui, qu'on est là-dedans, parce que si vous voulez, il y a deux choses qui sont fondamentale en dehors de la guerre avec la Russie aujourd'hui, c'est effectivement l'impasse climatique et de l'autre côté le numérique. Et l'un comme l'autre vont changer radicalement notre condition de vie. C'est-à-dire que l'impasse climatique, si on continue comme ça, puisqu'on a déjà à peu près supprimé 50% du vivant sur la Terre, donc on est quand même une espèce particulière.
Ouais.
Je pense qu'on va on va connaître des moments vraiment très difficiles. Déjà, on connaît des étés très difficiles, on connaît des périodes et ça va être de pire en pire. Et avec le numérique et l'intelligence artificielle, c'est la nature profonde de l'homme qui va changer. Et ça, on ne s'y prépare pas. Mais c'est l'intelligence artificielle va nous remplacer dans beaucoup de tâches, mais elle est aussi susceptible de nous remplacer en tant que personne. Et ça, on n'en a pas conscience parce que il y a quelque chose d'assez terrifiant, je trouve, chez l'individu, c'est cette incapacité à se projeter.
Je me fais l'écho d'un auditeur là sur l'application qui dit bravo, 100% d'accord. Alors en tout cas, Marc Duguin, on entend le constat. Mais très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas laisser les auditeurs comme ça sur cette impression que tout va mal et que tout est perdu. Alors vous avez quelques pistes hein, dans le livre. Réorienter la dépense, c'est ce que vous mentionnez à un moment. Se déconnecter, s'extraire du numérique un petit peu. Voilà quoi d'autre?
Ben, c'est en fait la question, c'est la réappropriation du collectif. C'est qu'aujourd'hui tout est laissé à l'individualité, que ce soit le profit, que ce soit nos modes de consommation, et je pense qu'on doit réinventer le collectif. C'est la façon, bon, c'est un peu galvaudé, mais de vivre ensemble et d'imaginer cette société. Je suis pas du tout anti-progressiste. Je sais que l'intelligence artificielle va avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses positives. Sinon, ça n'existerait pas. C'est comme le nucléaire. Le nucléaire est capable de nous supprimer de la planète. Mais au niveau médical, il nous a apporté des choses. Donc, c'est moins ce qui me terrifie, c'est ce sentiment, d'avoir une classe politique qui finalement se laisse totalement menée et par le progrès et par les grandes entreprises et plus du tout par un projet collectif.
En tout cas, il y a beaucoup de choses dans l'orgie capitaliste qui paraît donc chez Alary Édition, qui vont faire débat, dont on peut s'emparer. Et en l'occurrence, ce sont donc des entretiens avec Adrien Rivière. Merci infiniment Marc Duguin d'avoir été l'invité d'Inter ce matin. À suivre la revue de presse.